17h à Paris, 9h à Damas et Mamoudzou.
Andréane Mellard.
Le journal international tout de suite. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
À la une, dans la bande de Gaza, le camp de réfugiés de Nusayrat, à nouveau visé par une frappe israélienne.
C'est là qu'avant l'aube, 18 corps ont été retrouvés, parmi eux celui d'un journaliste de la chaîne qatarienne Al Jazeera. Sur la seule journée d'hier, au moins 40 personnes ont été tuées dans l'enclave, rapporte la défense civile de Gaza. Les échanges se multiplient avec le nouveau pouvoir en Syrie. Après Washington, samedi, le Royaume-Uni a établi des contacts diplomatiques avec HTS. Jusqu'alors prudente, l'Union européenne convoque aujourd'hui un conseil réunissant les ministres des Affaires étrangères de ses 27 États membres. Dans quelques minutes, le témoignage du maire de Mamoudzou, où un terrible cyclone a tout ravagé sur son passage ce week-end. Sur le continent africain, une date actée hier, le 29 janvier 2025, marquera le départ officiel du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Et puis nous verrons comment des tonnes de mazout se sont écroulées hier dans la mer Noire après le naufrage de deux pétroliers russes.
Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes sont encore quotidiennes. Au moins 40 personnes sont mortes hier dans l'enclave.
Un bilan dressé par la défense civile de Gaza, et parmi les victimes, 3 secouristes et un journaliste d'Al Jazeera. La chaîne qatarienne a indiqué que son caméraman avait été tué dans un bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de l'enclave. Il y a quelques jours, le même camp était déjà la cible de l'une des frappes de l'État hébreu les plus meurtrières depuis des mois. Reportage de Rami Almegari et Pierre-Olivier.
À l'aide d'une unique tractopelle, ces membres de la défense civile déblaient une montagne de décombres.
Lorsque le bâtiment a été touché, on s'est tout de suite mis à déblayer les gravats avec l'aide de la municipalité. Pour l'instant, on a sorti plus de 30 corps sans vie. Mais on pense qu'il pourrait y avoir encore 14 ou 15 personnes prises au piège en dessous, des femmes et des enfants.
C'est à 5 km de là, à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, l'un des rares encore en service, que plusieurs blessés ont été transportés. Au milieu des urgences, Karam Omar, 17 ans, la jambe ouverte, est allongée par terre.
Ma mère a été tuée, d'autres membres de ma famille blessés et emmenés à l'hôpital européen de Gaza. Moi, j'ai eu la tête ouverte et j'ai des points de suture autour des yeux. Regardez, ma jambe aussi a été blessée et j'ai les doigts brûlés.
Débordé, le médecin urgentiste Wassem Al-Tertouri tente de sauver toujours plus de vies avec toujours moins de moyens.
Bien sûr, on reçoit beaucoup de blessés. On a opéré 5 personnes la nuit dernière et on a dû en envoyer d'autres ailleurs. C'est de plus en plus dur. On n'a pas assez de matériel, pas assez de lits. Vu la situation, on a déclenché le plan d'urgence maximal, mais on n'a rien. C'est trop dur pour nous.
Ce bombardement à Nusayrat aurait tué une majorité de femmes et d'enfants. De son côté, l'État hébreu affirme qu'il visait un leader du djihad islamique palestinien, responsable de plusieurs attaques sur des civils israéliens. Rami Almegari, Gaza, Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
Israël qui poursuit par ailleurs ses frappes en Syrie. Cette nuit, l'Observatoire syrien des droits de l'homme prévient que des sites militaires dans la région côtière de Tartous ont été visés. Le gouvernement israélien qui a également approuvé hier un projet visant à doubler la population dans la partie du Golan syrien annexée où 30 000 Israéliens sont déjà installés. Nous n'avons aucun intérêt à nous confronter à la Syrie. Nous définirons la politique d'Israël envers Damas en fonction de la réalité sur le terrain, a déclaré Benjamin Netanyahou.
L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a lui rencontré Abou Mohamed Al-Joulani, le chef du HTS.
Un contact diplomatique également établi par Londres hier. Les différentes capitales du monde entament les démarches et annoncent qu'elles établissent donc des contacts avec les nouvelles autorités en Syrie et notamment le groupe HTS. L'Union européenne a de son côté convoqué ce lundi un conseil réunissant les ministres des Affaires étrangères de ses 27 États membres. La Syrie sera évidemment au menu de discussion, même si la prudence prédomine. Jean-Jacques Herry.
Pour le moment, la position européenne sur le dossier syrien est surtout un rappel de grands principes. Par la voix de sa nouvelle haute représentante pour les affaires étrangères, Kaya Kallas, ou par celle de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, l'UE exprime depuis une semaine son attachement à une transition démocratique syrienne pacifique et inclusive. Pour le reste, on attend de voir comment agissent les nouvelles autorités à Damas, résumait vendredi un haut responsable européen, évoquant le HTS, nouveau maître de la Syrie, mais classé comme organisation terroriste par l'ONU et à ce titre frappé par des sanctions européennes. Pour Julien Barnes, Feissi, directeur du programme Moyen-Orient au Conseil européen pour les relations internationales, cet attentisme européen n'aide ni la Syrie ni l'UE.
Il y a plusieurs choses à faire si l'on veut pousser politiquement pour un processus de transition politique mené par les Syriens avec le soutien de l'ONU. Permettre l'amélioration de la situation économique, par exemple, en levant les sanctions dans certains des secteurs clés. HTS est maintenant la force dominante sur place. Il va bien falloir trouver un moyen de leur parler.
Ce week-end, Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a jugé prématurée toute levée de sanctions contre la Syrie. Et alors que les États-Unis ont annoncé avoir établi une connexion directe avec HTS, l'UE, elle, dit vouloir entrer en contact bientôt avec les autorités syriennes à un niveau opérationnel et non politique, toujours avec la même prudence. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
De son côté, demain, le Qatar rouvrira son ambassade à Damas. Damas, où une mission diplomatique française est attendue également demain. Il s'agit d'une première en 12 ans. 4 diplomates sont envoyés dans le pays avec pour mission de reprendre possession des emprises françaises en Syrie.
Le cyclone le plus violent et destructeur observé à Mayotte depuis 90 ans.
L'archipel de l'océan Indien est dévasté. Le vent qui a soufflé jusqu'à 230 km/h a par endroits tout balayé. Sur son passage. Selon un bilan très provisoire, hier soir, au moins 14 personnes ont été retrouvées mortes, 250 autres blessées. Un décompte qui ne dit rien de l'ampleur de la catastrophe, de l'aveu même du préfet de Mayotte. Le bilan sera très difficile à établir. Il pourrait être de plusieurs milliers de morts. Pour l'heure, l'essentiel est de faire parvenir de l'aide. Un pont aérien et maritime a été organisé hier depuis l'île de la Réunion. Encore faut-il ensuite atteindre les bidonvilles surpeuplées. Peuplé, l'approvisionnement en eau, nourriture et électricité est coupé dans de très nombreuses zones. Le maire de Mamoudzou lance un appel à l'aide. Amdil Vaedou Soumalia, qui est au micro RFI de Baptiste Coulon.
24 heures après, c'est le chaos total. On est vraiment dans un champ de guerre. On a des bidonvilles totalement rasés. On n'a pas le temps, en réalité, de s'apitoyer sur notre sort, du moins, en tout cas, pour nos autres responsables. On essaie de se mobiliser pour porter assistance et secours à toutes les personnes qui sont sinistrées, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui sont sinistrés, n'ont pas de toit, n'ont pas d'eau, n'ont pas de nourriture.
Que savez-vous de la situation des personnes dans les bidonvilles? On sait que toutes ces personnes n'ont pas forcément rejoint les centres d'urgence qui ont été mis en place.
Malheureusement, quand la situation s'est compliquée, s'est amplifiée, des appels au secours sont arrivés, mais comme on était en alerte violette, c'était difficile à ce moment-là que les secours, parce que c'est interdit, que ce soit les secours, que ce soit les forces de l'ordre de sortir. Nous espérons naturellement trouver des personnes qui, même ensevelies, mais qui puissent être encore vivants. Donc voilà, nous y travaillons en tout cas dans ce sens.
Le témoignage du maire de Mamoudzou, principale ville et chef-lieu de Mayotte. Mayotte, où est attendu dans les prochaines heures les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer, Bruno Retailleau et François-Noël Buffet. De la politique encore, lui, est resté dans l'Hexagone. François Bayrou entame ses consultations en vue de former un gouvernement. Le nouveau Premier ministre français reçoit dès aujourd'hui les représentants des forces politiques selon leur poids numérique à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella et Marine Le Pen seront donc les premiers à être reçus par François Bayrou à 9h heure de Paris.
Et ces consultations, on y revient dans 10 minutes avec notre invitée Nathalie Loiseau, députée européenne, secrétaire nationale à l'international du parti Horizon. Entretien avec Arnaud Pontus à 7h20 heure de Paris.
Il y a l'actualité du continent africain à présent et une date cette fois entérinée pour acter le départ de la CEDEAO, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les trois régimes militaires quitteront donc la communauté économique ouest-africaine à compter du 29 janvier 2025. Omar Aliou Touaré est président de la commission de la CEDEAO.
La conférence des chefs d'État et de gouvernement prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, les trois pays cesseront officiellement d'être membres de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. La conférence instruit le président de la Commission de lancer les formalités de retrait après la date limite du 29 janvier 2025. La conférence décide de fixer la période du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025, soit 6 mois, comme période transitoire, et de garder bien entendu les portes ouvertes aux trois pays pendant la période de transition.
Des propos recueillis au micro de Moïse Gomis.
Des tonnes de mazout dans la mer Noire.
Deux pétroliers russes se sont échoués hier au cours d'une tempête près de la Crimée annexée dans le détroit de Kerch. Les causes de ce double échouement n'ont pas encore été éclaircies. Correspondance à Kiev, Emmanuel Chaz.
Les images de deux pétroliers russes en plein naufrage, brisés et coulant dans la mer Noire, ont largement circulé en Ukraine et en Russie. La fuite de plus de 4300 tonnes de mazout, un dérivé du pétrole brut, a créé des nappes noires de pollution. Alors que des secouristes tentaient de porter assistance aux équipages. Le mauvais temps semble être à l'origine de ces naufrages, alors que Kiev accuse Moscou d'irresponsabilité en ayant permis la navigation de ses pétroliers en pleine tempête, alors qu'émerge une nouvelle menace environnementale dans la région. En plus d'être devenue une zone de non-droit et de combat où l'Ukraine a coulé plus d'un tiers de la flotte russe, la mer Noire voit son écosystème fortement impacté par la guerre. L'an dernier, lors de la destruction du barrage de Novakarovka, 18 milliards de mètres cubes d'eau douce du réservoir de la région de Kherson, polluée, s'était déversée dans l'estuaire de la mer Noire, anéantissant plusieurs espèces marines. Particulièrement menacées sont les crustacés, certains poissons, ainsi que la population de dauphins et autres cétacés de la région. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
On termine ce journal avec cette carte blanche laissée à 13 plasticiens contemporains.
Le palais de la Porte Dorée à Paris accueille en ce moment une double exposition inédite intitulée « Chaque vie est une histoire ». Tout le bâtiment monumental inauguré pour l'exposition coloniale de 1931 est devenu depuis le musée d'art et d'histoire de l'immigration. Sophie Torlotin.
Comment reprendre possession d'un lieu inauguré en 1931 pour manifester la puissance de l'empire colonial français ? Mathieu Aboninck s'est confronté au salon Asie et Afrique.
Qui étaient en fait des espèces de showrooms, des façons de montrer toutes les ressources disponibles dans les colonies de l'Empire français.
L'artiste français a créé une installation vidéo et choisi délibérément de laisser dans le noir les fresques représentatives de la prédation coloniale.
On se fait rattraper en fait par les puissances des lieux. Je sais pas, on est sur des hauteurs de plafond de 15 mètres. Donc il y a aussi toute cette puissance de l'Empire, elle a été manifestée dans ce lieu.
L'esprit du lieu a également frappé le plasticien togolais Koku Ferdinand Makouvia.
J'ai senti qu'il y a eu une vibration, en tout cas beaucoup de voix, des personnes qui ont travaillé ici pendant toute la période pour l'exposition coloniale.
Avant de réaliser son installation de sculpture en céramique,
Azézé Amandrin, les 7 vases de la haute connaissance initiatique.
Il est retourné au Togo.
Pour d'abord une cérémonie de pardon qui s'est transformée en une cérémonie de permission pour présenter les pièces dans l'espace.
Et cette installation insuffle au lieu une nouvelle identité en phase avec le 21e siècle.
Exposition à découvrir donc jusqu'au 9 février prochain.
Merci, c'était le journal de Simon Bourtembourg. À tout à l'heure, Simon. 7h13 à Paris dans 5 minutes. Notre invitée, Nathalie Loiseau, députée européenne, secrétaire nationale à l'international du Parti Horizon et ancienne ministre de l'Europe, entretient avec Arnaud Pontus. Mais d'abord, aujourd'hui l'économie et le sport. Et le football européen à la une de votre journal des sports, Victor Missistrano. Tout d'abord en Angleterre, incroyable scénario dans le derby de Manchester.
Face à United, City a mené 1-0 devant son public jusqu'à la 88e après une tête de Josko Gvardiol en première période. Mais dans les dernières minutes, Amad Diallo s'est mué en héros pour tout changer. Le jeune Ivoirien a d'abord provoqué un pénalty transformé par Bruno Fernandes. Et 2 minutes plus tard, enchaînement magnifique pour offrir la victoire aux Red Devils devant un public de City médusé. Le ciel s'assombrit encore au-dessus des Sky Blues. 8e défaite en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée à Manchester en 2016, jamais l'entraîneur Pep Guardiola n'avait traversé une telle tempête.
Qu'est-ce que je dois faire? Je dirais continuer à travailler. C'est moi le patron, je suis le manager et je ne suis pas assez bon, c'est aussi simple que ça. Je dois trouver une façon de leur parler, de les entraîner comme il faut, de faire en sorte qu'on soit meilleurs tous ensemble. Je ne suis pas bon, c'est tout, je le répète, je ne suis pas bon. C'est la vérité. Concéder ce genre d'erreur et le pénalty dans les tout derniers instants, c'est inacceptable. Mais bon, ça arrive parfois dans le football.
la bonne opération du week-end. Et pour Chelsea, qui conforte sa place de dauphin de Liverpool, les Blues ne sont plus qu'à 2 points après leur succès sur Brighton 2-1. Le Sénégalais Nicolas Jackson a inscrit en solitaire son 9e but de la saison en championnat.
En France, le Paris Saint-Germain est bel et bien le patron de la Ligue 1.
Oui, après 2 matchs nuls, le tenant du titre a renoué avec la victoire face à Lyon, 3-1, grâce à des buts de Dembélé, Vitinha sur pénalty et Gonzalo Ramos en fin de partie. Les Parisiens stoppent la bonne série lyonnaise et confortent leur avance en tête du championnat. Arrivé de Rennes cet été, le jeune milieu de 19 ans Désiré Doué commence à prendre ses marques au PSG. Il a été élu homme du match. Écoutez son analyse.
On continue sur une très belle dynamique. On a réussi à gagner le dernier match en Champions League. C'était très important. Ce soir, on a su se créer beaucoup d'occasions, créer des belles occasions, bien défendre aussi, même si on a pris un but. Voilà, on continue sur une bonne dynamique et on va essayer de continuer à ramener les 3 points à chaque fois. Je pense surtout qu'on a bien défendu. Dès le début, on a mis une très bonne pression. On a écouté la tactique du coach. On a su bien les presser aussi. Ça les a mis en difficulté. C'est ce qui nous a permis de se faciliter le match.
Au classement, Paris compte désormais 7 points d'avance sur Marseille. Les autres résultats de la 15e journée, de partout entre Montpellier et Nice. Succès de Rennes sur Angers 2-0 et de Strasbourg au Havre 3-0. Large victoire de Brest contre Nantes 4-1 avec un but du Malien Camori Doumbia et un doublé du Sénégalais Abdallah Sima. C'est très serré en Espagne. Leader, le FC Barcelone, s'est incliné à domicile face à Leganés 1-0. L'Atlético revient donc à hauteur grâce à son succès sur le même score contre Retafe. Les Colchoneros, Andréan, qui compte un match en moins, tout comme le Real Madrid, 3e à 1 point.
Et puis du handball, l'Euro féminin s'est terminé hier à Vienne.
Championne olympique à Paris, la Norvège s'est offert le titre continental en battant le Danemark 31-23. Battue de justesse par la Hongrie 25-24 dans la petite finale, la France termine au pied du podium.
Victor Missistrano pour l'Info Sport sur RFI. Et tout de suite, notre rendez-vous aujourd'hui, l'économie. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Et ce matin, on s'intéresse avec vous au système de santé américain. Et si on en parle, eh bien c'est parce qu'il est au cœur d'un fait divers aux États-Unis. Le patron de United Healthcare, une compagnie privée d'assurance, a été abattu le 4 décembre dernier en pleine rue. Cet assassinat, Stéphane, eh bien, il met en lumière le mécontentement des Américains envers leur système de santé.
Oui, hein, sur la scène de crime, les enquêteurs ont retrouvé des douilles portant les inscriptions « Delay, Deny, Depot ». Traduisez « retarder, refuser, poursuivre en justice », référence aux tactiques et stratégies que les assureurs santé sont réputés appliquer pour ne pas rembourser. C'est un jeune homme de 26 ans qui fait office de principal suspect. Il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il les revendique même. Lorsqu'il a été arrêté, il était en possession d'un document critiquant ce système qu'est l'assurance santé aux États-Unis, système souvent accusé de privilégier les profits au détriment de la prise en charge de soins.
Et c'est bien de ça dont il est question, Stéphane.
Oui, précisément. Il existe une couverture de santé publique, mais elle n'est pas universelle. Elle contient notamment 2 grands programmes. Le premier, c'est Medicare, destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi qu'à certaines personnes présentant des incapacités ou un handicap. Il s'applique au niveau fédéral, qu'importe l'État, tous les bénéficiaires ont les mêmes droits. Le second, c'est Medicaid, qui aide à couvrir les coûts médicaux pour les Américains aux revenus et aux ressources limitées. En revanche, lui, il est régi par les États. Chaque gouverneur est donc libre de mettre au point une réglementation spécifique.
Ça, c'est la couverture publique. Elle ne concerne donc pas toute la population américaine. C'est là qu'interviennent les structures privées.
Et d'après le bureau du recensement, les 2/3 des Américains ont souscrit à une assurance privée. Là est le cœur du sujet, puisqu'ils paient souvent des milliers de dollars par an pour être couverts en cas de soucis médicaux. Sauf que voilà, ces entreprises mettent tout en œuvre pour ne pas rembourser, ou du moins rembourser le moins possible leurs assurés sur leurs frais de santé. Des tactiques qui ont un coût. Pour les Américains, les dépenses de santé représentent près de 18% du PIB. À un titre de comparaison, en France, c'est 11%. Les États-Unis, qui sont d'ailleurs en haut du podium mondial sur ce type de dépenses.
Et ça a des conséquences, bien sûr.
Des conséquences d'abord pour les assureurs privés, naturellement positives, puisqu'ils génèrent de gigantesques profits. L'an dernier, United Healthcare, pour ne citer que ce groupe, a versé 15 milliards de dollars à ses actionnaires. Conséquence aussi pour les Américains, évidemment. Négatif cette fois. D'après une étude du Commonwealth Fund, 1 Américain sur 5 en âge de travailler renonce aux soins en raison de leurs coûts et de leur non-prise en charge des assureurs. Et il y a une tendance qui s'amplifie d'année en année, c'est l'endettement médical des ménages. Cela alors que l'espérance de vie chute aux États-Unis et que Donald Trump, le futur président américain, entend bien réduire ses dépenses d'assurance publique au profit du privé, qui révèle, on vient de le voir, toutes ses limites.
Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie, 7h20 à Paris. Lors de notre invité international, en studio face à Arnaud Pontus, Nathalie Loiseau, députée européenne, secrétaire nationale à l'international du Parti Horizon et ancienne ministre de l'Europe.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour Arnaud Pontus.
Bienvenue sur RFI. Avant d'évoquer la Géorgie et la Syrie, un mot de Mayotte, bien sûr, l'archipel français de l'océan Indien, dévasté par le passage du cyclone Chido. Il y a peut-être des centaines, voire des milliers de morts. Faut-il mettre en place l'état d'urgence, comme le réclament certains élus ?
Les élus mahorais le savent sans doute mieux que moi. D'abord, c'est une tragédie, c'est épouvantable. Je pense aux familles endeuillées, à ceux qui cherchent leurs proches. Il faut une solidarité nationale totale d'abord. Il faut venir en aide aux Mahorais comme on le fait. L'armée a mis en place un pont aérien depuis la Réunion. Tout doit être tenté pour sauver des vies, pour remettre l'eau, remettre l'électricité. Donc la solidarité nationale d'abord. Est-ce qu'un état d'urgence est nécessaire ? Le préfet le verra avec les élus. Peut-être.
Peut-être. Pendant ce temps, François Bayrou, le nouveau Premier ministre de la France, engage ses consultations avec les partis politiques ce matin même. Est-ce qu'il doit aller vite et former un gouvernement rapidement ?
On a besoin d'un gouvernement, bien sûr. Il a une mission difficile, il le dit, on le sait. On lui souhaite de réussir parce qu'on veut que le pays réussisse.
Vous pensez qu'il a plus de chances que Michel Barnier de tenir à Matignon ?
Écoutez, j'ai pas de boule de cristal. Ça va dépendre de l'esprit de responsabilité des partis politiques qui n'en ont pas tous fait montre récemment. Cette fois-ci encore, on entend Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon dire qu'ils vont censurer un gouvernement qui n'existe même pas encore et dont on ne sait même pas encore quel est le programme. Disons-le. Mais il y a urgence à ce qu'il y ait un gouvernement, un budget, à ce qu'on lutte contre le déficit, contre la dette, qu'on prenne des décisions. La France ne peut pas rester à l'arrêt, bien sûr.
La situation politique reste la même qu'avant le gouvernement de François Bayrou.
L'Assemblée nationale reste la même. J'espère qu'individuellement, les députés ont pris la mesure de ce que les Français voient et pensent d'eux.
Nathalie Loiseau, vous étiez en fin de semaine dernière avec d'autres députés européens à Tbilissi. La Géorgie, qui on le sait, est plongée depuis un mois et demi maintenant en pleine crise politique, après des élections législatives entachées de fraude, des pro-européens qui manifestent tous les soirs, un nouveau président issu du parti au pouvoir désigné samedi. Pourquoi l'Union européenne est-elle jusqu'ici si discrète, voire complètement absente ?
En tout cas, je me suis rendue avec d'autres parlementaires européens à Tbilissi. J'étais déjà observatrice électorale fin octobre. Ces élections, effectivement, ont été entachées de fraude. Le Parlement n'est pas légitime et donc le gouvernement non plus. La seule personnalité...
Pour vous, il n'y a aucun doute là-dessus.
Bah, écoutez, j'ai vu les fraudes, c'était un festival. Je les ai vues de mes yeux, devant moi. La seule institution légitime est la présidente Salomé Zouabichvili. Et ça pas parce que le gouvernement, le parti au pouvoir a voulu la remplacer, je précise, par un footballeur d'extrême droite pro-russe, que je ne la considère pas comme la présidente légitime. Aujourd'hui, le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne se réunit pour examiner la possibilité de sanctionner ceux qui ont fraudé et qui, aujourd'hui, ordonnent une répression effroyable. Il y a 400 personnes qui sont emprisonnées politiques en Géorgie. Les trois quarts sont tabassés entre le moment où ils sont arrêtés et le moment où ils sont jetés en prison. Trois quarts. Donc des sanctions sont nécessaires.
Ça fait un mois et demi que ça dure.
Évidemment, ça ne va pas assez fort.
Est-ce que vous avez entendu l'Europe parler ?
Pas assez. De mon point de vue, je l'ai dit, je le regrette. Je considère que ce pays qui est candidat à l'Union européenne, ce pays où 80% des Géorgiens sont pro-européens, où les manifestations qui se tiennent tous les jours, pas seulement dans la capitale, dans toutes les villes de province, rassemblent non pas des opposants politiques, mais des grands-mères et leurs petits-enfants, tous les secteurs économiques, des gens qui disent tout simplement on a des dirigeants qui volent de l'argent, qui nous ont volé les élections et qui maintenant veulent nous voler notre avenir européen.
Et des gens qui brandissent des drapeaux européens, c'est assez rare pour être dit.
Je peux vous assurer que arriver dans la manifestation comme nous l'avons fait jeudi soir, c'était être accueilli avec un espèce de soulagement et une espérance énorme par des gens qui ne pensent qu'à ça. Pour eux, Europe égale liberté et démocratie. Il serait temps qu'on ne les déçoive pas.
Bon, et clairement, l'Europe n'a pas été à la hauteur jusque-là.
Alors, si des sanctions ne peuvent pas être prises aujourd'hui parce qu'on sait d'avance qu'un pays pro-russe, la Hongrie, refuse des sanctions, il faut qu'il y ait des sanctions à niveau national. Je crois que la France y est prête, l'Allemagne, la Pologne et un certain nombre d'autres pays, mais il faut les faire
vite. Donc il faut contourner l'Europe, il faut que chacun des 26...
Malheureusement, l'Europe européenne que je suis vous dit, il faut que les 26 autres se mettent d'accord et sanctionnent les responsables de cette fraude électorale et de cette répression. Aujourd'hui, la Géorgie court le risque, alors que ça a été une des premières démocraties issues de l'Union soviétique, de devenir la Biélorussie. Et nous pouvons agir pour l'empêcher.
Nathalie Loiseau, vous parlez de sanctions donc nationales, à défaut de sanctions européennes. Ouais. Quel type de sanctions et contre qui alors?
Il ne s'agit pas de sanctionner le peuple géorgien, il s'agit de sanctionner les responsables du parti, si mal nommé le rêve géorgien, qui ont organisé la fraude et qui aujourd'hui organisent la répression.
Et quel type de sanctions économiques,
sanctions financières, gel des avoirs, ce qui sera
c'est un levier qui peut fonctionner, ça, Nathalie Loiseau.
Écoutez, le fondateur du rêve géorgien, Bizina Ivanishvili, son fils vit en France, lui-même a la nationalité française. Il a des propriétés en France, des biens en Allemagne. Je pense qu'on peut discuter.
Oui, discuter, ça veut dire tendre la menace ou sanctionner tout de suite?
Sanctionner, puis lever les sanctions si ça va mieux.
Bon. Autre dossier très important, la Syrie, bien sûr, et vous êtes rapporteur spécial auprès du Parlement européen sur cette question. Il y a 8 jours à peine, à la surprise générale, il faut bien le dire, Bachar al-Assad est tombé. Que doit faire l'Europe dans la nouvelle période qui vient de s'ouvrir?
D'abord, mesurer que les Syriens se sont libérés sans notre aide. Que depuis 2013 et Barack Obama qui refuse d'intervenir alors que des armes chimiques ont été utilisées par le régime, nous avons accueilli des réfugiés, nous avons pris des sanctions, mais nous n'avons pas aidé, nous, Européens, les Syriens, à se libérer. Mesurer l'espérance qui est la leur. Tous ceux à qui je parle disent « ça ne peut pas être pire que les 54 ans qui viennent de se passer ». Je dis 54 ans parce qu'avant Bachar, il y avait Hafez al-Assad.
Hafez, bien sûr.
Tous le disent. Oui. Mesurer l'inquiétude aussi des minorités chrétiennes, kurdes, qui craignent de se retrouver sous un régime islamiste, peu enclin au compromis. Mm-hmm. Nous devons, à mon sens, engager ce régime. Il est là. Il a gagné.
Donc il faut faire avec.
Il faut faire avec. Il est là, il a gagné, il a libéré un pays où il y a un vrai sentiment de libération. Et lui dire qu'on peut se mettre d'accord sur une levée partielle ou totale des sanctions, sur notre aide à la reconstruction d'un pays qui est à terre, mais qui a des préoccupations, des priorités pour nous.
Oui.
La lutte contre Daesh. C'est une priorité. Nous n'avons jamais levé le pied. Nous devons pouvoir continuer. Mais continuer à lutter contre Daesh, ça veut dire continuer à travailler avec les Kurdes. Il faudrait que la Turquie arrête de bombarder les zones kurdes ou de s'appuyer sur des milices pro-turques pour fragiliser les Kurdes qui ont été nos alliés contre Daesh. Ça veut dire protéger les minorités qui doivent pouvoir vivre en paix. La Syrie est une mosaïque, elle doit le rester.
Donc ça veut dire discuter avec les nouvelles autorités,
oui.
Bien évidemment. La France envoie demain une mission diplomatique en
Syrie.
Elle
a raison.
Bonne idée.
Elle a raison, j'appuie 100% ce qu'a décidé
les États-Unis ont déjà établi des contacts, le Royaume-Uni aussi ce week-end. Donc il faut aller dans cette voie.
Il faut aller dans cette voie. La Syrie sera ce que les Syriens en décident. Mais aussi, si nous n'entamons même pas la conversation avec les Syriens, on ne pourra pas se plaindre que ça ne va pas dans notre sens. Donc il faut être là, il faut être à la table. Jean-Noël Barrot était à Amman ce week-end pour parler de la Syrie. Il a bien fait, il a raison.
Merci à vous Nathalie Loiseau d'être Merci. Venue ce matin et à bientôt.
La députée européenne secrétaire nationale à l'international du parti Horizon, Nathalie Loiseau, entretient avec Arnaud Pontus, à retrouver sur le www.rfi.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
les femmes deux fois plus touchées par la dépression que les hommes.
Demain,
reportage à Lyon à l'occasion de l'inauguration de l'Académie de l'OMS.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Sans cesse, nous nous battons pour protéger les journalistes. Sans limite, nous nous battons pour contrer la propagande. Sans jamais reculer. Sans jamais abandonner. Sans frontières. Mais pas sans vous. Nous avons besoin de vous pour défendre la liberté de la presse et votre droit à l'information. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières, fight for facts.
Vous m'en direz des nouvelles.
Musique, cinéma, littérature, exposition, bande dessinée, spectacle vivant, photographie, gastronomie. Du lundi au vendredi, Culture et Découverte s'invite en France et dans le monde pour exciter nos cinq sens et partager le bonheur d'être ému.
Vous m'en direz des nouvelles. Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU et à tout moment sur RFI.fr ou sur votre application de podcast préférée.